Bi.
Für.
Ka.
Sion. Bonjour.
Bonjour.
On vous espère en forme. Avant de vous raconter notre mois d'avril, petit mémo. On fait une newsletter avec quelques photos pour illustrer nos propos et vous tenir informés de la sortie du nouvel épisode chaque mois. Pour être ajouté à la liste de diffusion, vous pouvez nous envoyer votre mail à l'adresse bifurcationvf@proton.me. Mi, ça s'écrit M-E. Retrouvez-la dans la description.
Bifurcation, épisode 4, en avril, la vigne. Pour ce mois d'avril, on a encore de nombreuses choses à vous raconter. Une conférence hyper intéressante à Nantes, une semaine chez Yann et Emma, puisque Yann est arboriculteur, quelques jours de woofing chez Olivier, maraîcher en bord de Loire, et entre-temps, un passage à Orléans pour bosser nos cours et bricoler encore un peu le camion. On vous emmène ?
On a commencé le mois avec une conférence.
50 ans de lutte paysanne, ici et ailleurs.
Événement organisé à Nantes par Contre-Attaque, un média indépendant.
L'après-midi commençait par la diffusion d'un film pour retracer l'histoire de différentes luttes à des époques et des localisations variées. Ensuite, des participants ont partagé leurs réflexions. On vous en partage quelques-unes qui nous ont touchés.
Un peu en vrac, parce que le vrac, c'est zéro déchet. Commençons.
Le prix du bio est parfois considéré comme trop élevé. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte qu'en achetant du bio, tu payes la totalité du prix. Contrairement au prix du conventionnel, où tu ne payes pas encore le coût du traitement des eaux, les frais de santé, etc., qui seront pris en charge, eux, par la collectivité. Et donc, par nos impôts.
On ne sait pas encore combien de temps vit un humain nourri avec de la nourriture issue de l'agriculture conventionnelle, puisque c'est la génération des personnes qui ont actuellement 40 ans qui sera la première à l'expérimenter.
Un paysan présent a également exprimé qu'il ne faudrait pas opposer les paysans entre eux, bio versus conventionnel. Il faut garder en tête qu'il faut un entourage et des collègues qui se posent des questions pour pouvoir soi-même se poser des questions. Les paysans ne sont pas de manière systématique contre les normes, comme on voudrait nous le faire croire parfois, mais il faut aussi donner les moyens et le temps de se mettre en conformité. Ce n'est pas uniquement une histoire de choix personnel.
Concernant l'appauvrissement des sols, c'est un cri d'alerte qu'on a entendu. Il y a un appauvrissement généralisé des terres agricoles à cause des pratiques qui y sont menées. Il existe pourtant des méthodes pour favoriser la vie du sol et maintenir le sol en place. Mais il n'y a pas d'aide sur le sujet. L'agriculteur est plutôt seul face à cet enjeu.
Encore une fois, il semble que ce n'est pas qu'une histoire de choix personnel. Et enfin, une participante a exprimé qu'il faut peut-être revoir nos codes de langage. On parle du conventionnel pour parler en fait des méthodes chimiques. Avant la Première Guerre mondiale, toutes les productions étaient bio, c'était ça la norme. Il faudrait alors distinguer agriculture chimique d'agriculture biologique. Ce genre d'événement, ça m'aide personnellement à prendre du recul, à revoir les choses à l'échelle un peu plus globale. Quels sont les enjeux de l'agriculture et pour la société, quel rôle joue l'agriculture?
On complète aussi cette prise de hauteur par une info. D'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs de France seront partis à la retraite. Si on n'est pas nombreux à s'installer avec des pratiques durables, ces terres cultivées seront vraisemblablement rachetées par des fermes qui ne font que grossir et qui continuent d'utiliser des produits chimiques.
C'est peut-être un biais de confirmation, mais tout ça vient renforcer l'idée que c'est en travaillant dans ce milieu que je pourrais avoir un impact fort. Je ne sais pas encore si j'ai l'envie de devenir maraîchère en tant que telle, mais je sais en tout cas que ce serait un choix qui serait éclairé et utile.
Passé ces différents retours que l'on a entendus, on est allé voir un arboriculteur qui s'appelle Yann. Moi j'étais en stage et Flavie pour découvrir certains aspects de la production fruitière et maraîchère. Salut Yann.
Salut.
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici et qui tu es?
Ok, alors ici on est à La Caillère, à Couture. C'est là où j'habite avec ma copine et mes deux garçons. Et c'est à peu près à 3 km du terrain que je cultive, donc en arboriculture et en maraîchage. Voilà.
Ok, merci. Alors c'est quoi ton métier ?
Mon projet, c'est la lutte des fruits. Et donc, à la base, j'étais vraiment parti pour faire que des fruits, de juin jusqu'à à peu près octobre. Mais le truc, c'est que petit à petit, le maraîchage est venu s'implanter, notamment des cultures inter-rang dans les grands fruitiers, et puis par rapport aux demandes des gens. Donc, le projet, il évolue aussi beaucoup par rapport à ce que toi tu souhaites et ce que les gens souhaitent en retour. Donc ça c'est intéressant, cette expérience un peu partagée quoi. Donc à la lutte des fruits, c'est rajouter les légumes, mais j'ai quand même gardé le même nom, la lutte des fruits, parce que sinon ça faisait trop long.
Et comment t'es arrivé à faire ça ?
C'est tout un parcours, j'ai pas vraiment changé d'orientation de vie, mais j'ai fait des études en agriculture, après en biologie, mais j'avais arrêté pour travailler dans l'associatif. Et bon, c'était plus, j'ai terminé mes études à Angers en biologie, et c'est un peu le premier boulot que j'ai trouvé dans le coin en associatif, mais lié au végétal, à la culture, voilà. Donc je suis arrivé en Maine-et-Loire, parce qu'à la base je suis originaire de Charente-Maritime. Donc ça m'a permis, cette association, d'avoir un pied en Maine-et-Loire, à la campagne, dans un joli petit coin. Et après, j'en suis venu à chercher un terrain, à essayer d'avoir un projet agricole, à vouloir tout cultiver, tout faire, avoir un projet super diversifié, comme un peu le vôtre. Et puis au final, à trouver un terrain, ça a été long, à affiner mon projet, à me former, à aller voir des gens à droite, à gauche, et à finalement arriver à trouver ces 2,6 hectares, et puis à se dire, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir implanter mon projet sur cette surface cultivée, labourée, qui ressemble à un champ comme tous les autres champs, mais sur lequel je dois faire mon projet, quoi. Et ça a été un vrai questionnement, et c'est toujours, des années plus tard, on se dit, ah, mais si c'était à refaire, il y a quand même plein de trucs que je ferais différemment. En fait, on n'a jamais assez de recul, quoi. Voilà. Faudra avoir l'expérience, mais dès le début. Donc voilà.
Est-ce que tu peux préciser ce que tu cultives sur le terrain ?
Ouais. Donc, moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il faut avoir une culture principale, une ou deux, mais avoir quelque chose qui fait... On peut parler chiffres tout de suite, parce qu'il faut quand même vivre, qui fait ton chiffre d'affaires, quelque chose. Moi, c'est le raisin de table, donc j'ai 1 hectare de raisin de table, et ça, c'est ma culture principale. À côté, donc le raisin de table, grosso modo, ça donne 2 mois dans l'année. Donc à côté, j'ai voulu des fruits pour donner dès le mois de juin. Donc c'est le cas des framboises. Après l'été, il y a les myrtilles qui viennent se mettre, avec les pêches, les abricots, et puis en fin de saison, les pommes, les poires. J'ai été aussi parti sur d'autres, prunes, kiwis, tout ça, puis j'ai vraiment sélectionné par rapport à le kiwi demande beaucoup d'eau, la prune, ça peut, mais c'est... En fait, à un moment, on fait un choix dans nos fruits naturellement. Et puis, la prune, je l'ai mis dans les haies, mais je ne l'ai pas forcément mis en culture. Et donc, tout ce que je viens de te citer. Et après, donc, des légumes de saison, d'été, et principalement des légumes d'été, quoi, qui viennent accompagner ces fruits-là.
Ok, et pourquoi tu as choisi ces productions ?
Alors, à la base, quand j'ai voulu m'installer, le raisin de table, jamais je pensais en cultiver. Et maintenant, c'est ma culture principale. Donc, tu vois, comme quoi, faut pas se fermer. J'ai choisi ça parce que je suis tombé en formation en Ariège sur un gars, Jean Suot, qui était vraiment très inspirant, un gars très terre-à-terre, pas du tout rêveur. Et j'avais rencontré beaucoup de rêveurs avant, donc il me fallait un peu ce contrepoids. Beaucoup de projets un peu idéalistes où, au début, on est tous un peu dans ce délire-là. On veut quelque chose d'incroyable. On veut aussi réinventer les choses. Voilà. Et lui, il était très terre-à-terre, mais il avait une culture très diversifiée. Et donc, en fait, je calque pas son projet, mais je m'inspire énormément de son projet. Et donc, voilà, je pense que ça vient aussi à ça. C'est aux rencontres que tu fais et à te dire, finalement, le raisin de table, c'est intéressant. Pareil, tu fais une... Au début, tout bête, j'ai fait une étude de marché. Il y en a qui s'installent sans le faire, parce qu'ils se disent, c'est bon, moi, c'est sécurisé, mais comment mes débouchés sont sécurisés. Mais non, l'étude de marché, c'est essentiel. Donc, c'est du porte-à-porte, vraiment très bête, en disant, je prends juste votre mail, je vous embête pas, je prends juste votre mail. Donc, j'ai fait tout le coin autour de chez moi. Après, j'ai posté un peu dans les boîtes aux lettres, pareil, pour avoir des mails, avoir des retours. Et là, je leur envoyais des questionnaires en ligne, tu vois, étude de marché, vraiment, sur... comment vous consommez, qu'est-ce que vous attendez d'une activité agricole à côté de chez vous, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et ça m'a permis déjà de développer mon réseau, parce que ces gens-là, j'ai gardé les mails, c'est les contacts. Donc c'est à peu près 120 contacts maintenant, qui, dès que je communique, j'ai 120 personnes qui reçoivent cette info. Donc l'étude de marché, je l'ai faite aussi pour... on s'adresse aux consommateurs, mais on s'adresse aussi à la concurrence. On observe la concurrence qui est autour de chez nous. Et moi, il y avait des pommes, des poires en bio, il y avait du conventionnel en pommes encore plus près, mais il n'y avait pas de raisin. Là, il y en a eu entre-temps, Mais moi, j'avais déjà fait un peu mon réseau de distribution, donc ça m'a moins impacté. Mais ça, c'est intéressant de te dire, bah oui, mais tu veux faire ça, ça te tient vraiment à cœur. Mais regarde autour de toi, il y a 3 fermes qu'en font, quoi. Donc si eux ont réussi à faire leur débouché, ça veut dire que toi, ça réduit quand même vachement les tiennes, quoi. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte que le raisin, c'était très consommé. Il y avait même les cures de raisin en automne. Il y avait, voilà. Moi, j'ai vraiment des gens qui m'achètent 50 kilos de raisin pendant, je sais pas, 2 semaines, quoi. Bon, voilà, parce que la famille fait une cure, ils mangent que ça. Mine de rien, ça, tout de suite, il y a des débouches intéressantes. Et donc, le raisin, c'est surtout ça. C'était pas du tout au début du projet, mais ça en est venu parce que il n'y avait pas de concurrence dans le coin et les autres fruits allaient se rajouter à ça. Mais ma production principale, c'est devenu le raisin grâce à ça, quoi. Grâce à pas que mon envie, mais à ce que j'ai pu observer aux alentours, quoi.
Tac. Et t'aimes bien ça, cultiver le raisin?
Ouais, en plus c'est cool parce que maintenant l'hiver je fais de la prestation en taille de vigne, donc tu vois j'ai un peu la tête dans la vigne quelques mois dans l'année quand même, et ouais c'est particulier la taille de la vigne parce que la vigne c'est une liane, donc tu tailles ça assez drastiquement, on a l'impression qu'on enlève tout le bois quoi par rapport à un pommier ou un poirier, on va regarder les branches fruitières et tout, là ça n'a rien à voir là, hein. Comme je t'ai expliqué au champ, t'as 2 tailles principales, quoi, la guyot, la cordon, et puis voilà. Mais après, c'est vraiment intéressant à observer l'évolution. Quand tu tailles sur plusieurs années, tu vois l'évolution de ton cep de vigne. Tu dis, ah tiens, tu vois, parce que même si on a des milliers, eh ben, on arrive quand même à reconnaître certains ceps au bout d'un moment, comme si c'était tous nos petits-enfants. Et à se dire, ah oui, celui-là, l'année dernière, je l'avais taillé comme ça, et au final, c'est pas mal, quoi. J'ai respecté le flux de cèpe, on voit qu'il s'est bien développé. Ah, celui-là, non, il faut vraiment que je le reprenne, enfin voilà. C'est pas une taille automatique, même si on a l'impression que tout se ressemble. Quand on est plongé dedans au quotidien, non. Voilà, c'est pas automatique et donc c'est plaisant, quoi. On n'est pas des robots, donc c'est bien, c'est plaisant quand même.
Trop bien, merci. J'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un mot ou un conseil pour celles et ceux qui voudraient s'installer ?
Oui, pour alors celles et ceux qui veulent s'installer, qui ont vraiment cette envie-là, c'est déjà de se former, de rejoindre des groupes de jeunes ou de moins jeunes, hein, mais qui veulent s'installer, voilà, qui ont un projet agricole, le confronter, voilà, aller rencontrer. Parce que souvent, les projets agricoles se font, soit comme je te disais, certaines vidéos sur Internet qui te promettent la lune, ou comment des idées piochées à droite à gauche, toutes compilées, mais sauf qu'un projet viable, c'est pas des idées compilées comme ça, un peu à la va-vite, quoi. C'est j'en parle avec des producteurs, je confronte, je vais voir des producteurs qui sont pas forcément dans ma philosophie, mais c'est pas grave. Je vais voir des producteurs bio qui sont peut-être plus proches de ce que je fais. Je vais voir des gars installés depuis pas longtemps, des filles installées depuis plus longtemps, enfin voilà, faut vraiment le confronter, quoi. Puis là, on affine, on se dit, ah non, mais ça, c'est pas viable, mon truc, c'est pas possible. Agronomiquement, ça peut pas le faire parce que j'ai des variétés complètement différentes sur une même surface, ça peut pas le faire. Moi, c'était un peu mon pari, hein, tout cultiver sur une même surface. Donc, c'est vraiment confronter son projet et vraiment bien, très bien connaître son sol. Mais pas juste une analyse pH et tout ça, quoi. Ça, c'est beaucoup trop basique, quoi. Ça, c'est bien, mais c'est beaucoup trop basique, toi. Observer son sol. Est-ce que ton sol, qui peut être très, très sec en été, est-ce qu'il n'est pas gorgé d'eau par endroit en hiver? Et là, je sais de quoi je parle. Ouais. Voilà, tu vois, des choses comme ça où... avant d'implanter, il faut vraiment regarder comment est ton sol, quoi. Moi, je sais que sur la partie la plus sableuse, la plus pauvre, c'est là où j'ai mis la vigne, parce qu'on dit que c'est une plante de terre pauvre, où ça pousse partout dans les cailloux, il n'y a pas de terre, ça pousse quand même presque. Hein. Alors qu'il y a des variétés qui ont besoin de limon, d'argile, d'un peu plus de structure, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment observer, et puis pareil, les vents, c'est vraiment l'impact du vent... Certains, les anciens, parlent aussi les couloirs de grêle, comme quoi la grêle passerait à peu près toujours au même endroit. Et c'est vrai qu'il y a des coins par ici qui n'ont jamais de grêle, qui sont jamais impactés. Moi, mon champ est très peu impacté, alors qu'il y a des coins pas très loin qui le sont. Après, nous, c'est différent parce qu'on a la Loire, donc la vallée de la Loire joue énormément. Les nuages, des fois, on voit passer les nuages de pluie l'été et ils passent jamais au-dessus de notre champ, ils passent de l'autre côté. Mais donc, vraiment observer son sol. Et des fois, on donne le conseil de planter tout de suite parce que votre projet, les arbres, ça met un moment à produire. Avant de planter, non. L'année que vous allez prendre à observer, elle sera vraiment pas perdue. Vous allez plus perdre à planter trop tôt et à dire « Non, mais mes arbres, ils se développent pas parce qu'au final, j'ai pas bien travaillé le sol avant ou j'ai pas planté au bon endroit ou là où j'aurais dû drainer, j'ai pas fait. » Voilà. Donc, vraiment... observer avant, puis à un moment, c'est sûr qu'il faut se jeter à l'eau, quoi. Parce que c'est quand même des investissements, donc ça se fait pas à la va-vite. Mais faut y aller en tout cas, faut des projets agricoles, c'est bien.
Ok, merci beaucoup pour toutes tes réponses et puis pour le temps que tu as accordé à nous et à cet échange.
C'est avec plaisir.
Je précise aussi que Yann fait ses produits phytosanitaires lui-même. Les produits phytosanitaires sont des produits qui défendent les plantes. Il y a différents types de traitements contre ce qu'on appelle des bioagresseurs. Champignons, bactéries, virus, insectes divers. Il utilise pour ça des combinaisons de plantes. De ce que j'ai compris, les préparations qu'il fait en produits phytosanitaires sont différentes des produits synthèse parce qu'ils agissent moins longtemps et que les composés agissent en surface et pas dans les cellules des plantes. Aucun risque de les retrouver dans les fruits. Ils sont aussi composés de molécules dégradables et sans impact pour le sol et la vie du sol à moyen et long terme. Certains produits de synthèse sont autorisés dans le label bio, mais Yann ne les utilise pas. Il utilise aussi du cuivre, rarement et en très petite dose, car il m'a expliqué que les pollutions aux métaux sont des pollutions durables des sols.
Voici le résumé de ce que nous avons fait chez lui pendant notre semaine.
Attache de la vigne, taille de quelques vignes avec la méthode guyot double.
Tu nous dis ce que c'est la taille guyot double ?
Guyot double, c'est garder deux branches principales sur la vigne. Ensuite, on garde seulement deux bourgeons à la base de chacune de ces branches. En partant de ces bourgeons, la vigne va faire quatre nouvelles branches qui porteront les fruits. Sur ces quatre branches, on en gardera deux sur lesquelles on laisse seulement deux bourgeons à la base. Et le cycle se répète chaque année. Bon, j'espère avoir bien compris et avoir bien expliqué aussi, car c'est tout nouveau pour moi.
On a aussi installé une bâche sur une petite serre à arceaux. On a pris le vent comme jamais. Il faut qu'on se souvienne de nous aider du vent plutôt que d'essayer de lutter contre lui.
Nous avons planté des tomates sous la serre. Le nouvel abri a ainsi été utilisé tout de suite. Car l'avantage d'une serre, c'est de pouvoir mettre des légumes plus tôt qu'en plein champ. Et donc d'avancer la date de récolte pour avoir des produits qu'on appelle primeurs.
Il nous a montré la taille d'autres arbres fruitiers. Pommiers, poiriers, actinidia, qui donnent les kiwis. Et on a testé.
On a préparé le sol et on l'a bâché pour une zone de culture de pommes de terre.
Encore une semaine où nous avons appris énormément de choses. Ensuite, nous avions 2 semaines à Orléans. On ne nous en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais nous avons chaque mois un devoir à rendre sur un cours en particulier. Donc à chaque fois que nous ne sommes pas en stage, en woofing ou en cours, on consacre du temps spécialement sur les apprentissages théoriques et nos devoirs. En février, c'était agronomie, étude du sol. En mars, maraîchage pour moi et arboriculture pour Valérian. Et en avril, la gestion. On continue aussi notre aménagement de camion. Le plus gros étant fait, on passe aux détails nous permettant de gagner de la place. Conception d'un meuble latéral et planification de filets, des crochets pour des porte-manteaux et des caisses adaptées. Je m'arrête un instant sur la fabrication du meuble. On l'a fabriqué sur mesure et on a cherché un système pour faire une tablette repliable. Après avoir cherché moult solutions, ce qui a le mieux fonctionné, c'est 2 trous, une cordelette et des nœuds de marin. 3 € et un peu d'imagination contre 30 € d'achat inutile. On a aussi fait de la couture pour terminer nos rideaux et adapter un matelas pour pouvoir le replier en mode banquette. Ça nous a bien occupés et merci à ma maman pour son aide.
Pour finir le mois, on a fait un court passage chez Olivier, maraîcher entre Nantes et Angers en bord de Loire. Il a même une parcelle sur une des îles de la Loire. Il va nous en parler. Est-ce que tu veux bien te présenter ton activité et les spécificités un petit peu de là où tu es et ce que tu fais ?
Je suis Olivier de Saint-Florent-Vieille. Donc je suis maraîcher en légumes diversifiés avec des méthodes naturelles. J'étais avant un maraîcher en agriculture biologique et puis aujourd'hui j'ai décidé d'être local, mais de continuer mes pratiques, même de les affiner. Comme ça me permet d'avoir des légumes à un plus bas prix. Et de toute façon, les gens, ils voient ce que je fais. Ils viennent acheter dans le jardin. Les surfaces, c'est... J'ai un peu plus d'un hectare, quoi. J'ai 1 hectare sur une île de la Loire. Puis autour de la maison, il y a, je sais pas, 3000 mètres carrés. Avec des fruitiers, beaucoup. Bah, même sur l'île, il y a des fruitiers.
La cohabitation avec la Loire, ça se passe comment ?
C'est très bénéfique. Déjà, le cadre est idéal. Vraiment, ça c'est super. Après, le risque de la Loire, c'est qu'elle peut inonder. Mon terrain est l'un des derniers à s'inonder sur cette île, mais ça arrive. Ça peut arriver à n'importe quelle saison au jour d'aujourd'hui avec le climat. C'est arrivé au mois de juin, par exemple, il y a 6 ans, je crois. Là, il ne faudrait pas que ça arrive, quoi. Bah, sinon, non, c'est super, quoi. C'est juste ce risque d'inondation. Après une inondation, les cultures qui sont en place, qui sont déplaçables, comme des choux, on peut les arracher et les replanter dans un autre terrain. ça se transplante très, très facilement, les choux. Et il y a des légumes, si l'inondation dure une journée, tout va résister, à peu près tout. Mais si l'eau dure plus de 3 jours, là ça commence à être inquiétant. Après, il y a des cultures, style asperges, fraises, ça repart. Et par contre, l'avantage d'une crue, c'est que ça nettoie tous les rongeurs, toutes les limaces et tout ça. Il n'y a plus qu'à les ramasser sur les arbres, quoi. Mmh. Et ça fait une fertilisation de dingue, quoi. Après une crue, on bat tous les records en productivité, quoi. C'est le meilleur des engrais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience dans le métier? Un petit peu.
Moi, j'ai appris le maraîchage dans les Hautes-Alpes, en fait. Donc, c'était avec les cailloux. Donc, je suis bien content d'être revenu au bord de la Loire. Sinon, j'avais quelques expériences avec mes parents, à ramasser les patates, mais je prenais comme une corvée, quoi. Et voilà, je m'y connaissais rien. La personne m'a pris en me faisant confiance, quoi. Et puis en m'expliquant que lui, il était bijoutier avant et que c'était rien du tout comme métier à apprendre. Je dirais pas la même chose, quoi. Mais ça l'a fait. Quoi. Ce qu'il me demandait, si c'était faisable, quoi. C'était produire pour 150 personnes sur la ferme l'été, quoi. Mmh. Et il avait toutes les quantités et tout. J'avais juste à suivre son planning de culture avec ses conseils, quoi. Donc c'est l'idéal, quoi. C'est bien. J'ai fait 2 ans chez lui, mais après je suis retourné plusieurs fois où je donnais des coups de main. Et après, quand je me suis installé ici, j'ai fait pendant 5 ans en agriculture biologique avec ma femme à l'époque. Et puis là, ça va faire 5 ans que j'ai repris, quoi, un peu, presque.
Tu nous as dit que tu ne mettais pas de bâche plastique au sol. Mm-hmm. Tu peux expliquer pourquoi? Et comment tu fais pour gérer sans ces bâches plastiques?
J'ai utilisé les bâches plastiques et je me suis rendu compte que ça tassait beaucoup la terre. Quand je retirais la bâche, en dessous la terre, elle ne me plaisait pas du tout, elle n'était pas du tout souple. Donc il y avait ce problème-là, il y a le plastique aussi, c'est des bâches tissées. Mais à la longue, on sème plein de microplastiques partout. Et puis le truc, c'est que surtout, on peut pas, une fois qu'on a bâché, on ne peut pas contreplanter par exemple. C'est très dur, quoi. On peut pas planter autant que quand on met pas de bâche, quoi.
C'est quoi que tu appelles contreplanter?
Contreplanter, c'est par exemple là j'ai fait un semis, c'était carotte, mâche, radis, donc tout ensemble, la terre était propre, toc, je fais mon semis dedans, je plante des salades, donc les salades elles ont de l'avance, du coup c'est du plan. Donc les salades, elles poussent. Pendant ce temps-là, je ramasse les radis en premier. Après, il y a la mâche qui est prête. Et en fait, une fois que je ramasse les salades, en fait, c'est à partir de ce moment-là, ça me fait des trous dans les semis. Là où il y avait les salades, quand les ramasses, elles sont grosses. Donc il y a un trou de 20 cm de diamètre. Eh bien là, je peux planter une tomate, par exemple. Et c'est de la contreplantation. Ça pousse toujours. Il y a toujours quelque chose qui pousse. Alors que la bâche, on est obligé de la retirer à un moment pour regratter la terre. Alors que là, non, on peut continuer, on plante, on ramasse, on plante tout le temps. T'as vu les planches, quoi, il y a toujours quelque chose à ramasser, presque.
Oui, on a vu des fraisiers avec des poireaux, même.
Ah oui, ça, c'était dans l'île, oui. Mais sinon, ici, les fraisiers, t'as vu, il y a les tomates dedans, il y a du céleri, du fenouil, un peu plein de trucs, quoi.
Et d'ailleurs, la récolte, tu la gères quand même facilement avec ce mélange?
Il y a moins de surface, donc on fait moins de kilomètres, et on a un peu tout sur place. Puis de toute façon, on est tellement proche de la culture qu'on connaît les endroits où ils sont beaux. On le voit quand on arrose, on voit les légumes s'ils sont prêts ou pas, quoi.
Ok. Dernière question, ton légume préféré?
J'en ai pas. C'est l'ensemble qui me fait aimer les légumes, la diversité.
Ok, merci beaucoup.
Merci à vous.
Avec lui, on a d'abord récolté des fraises et des pommes de terre nouvelles, sous serre.
Des asperges également, une première pour nous. C'était vraiment chouette à découvrir et un peu étonnant. Il faut les récolter tous les jours en repérant les têtes qui sortent de la petite butte de sable. On creuse autour, puis on met une gouge, une espèce de long chausse-pied, pour aller la casser au pied. Ça demande de la délicatesse, mais c'est sympa à faire. Et puis la dégustation en vaut la peine. On en a mangé pour la première fois cuisiné en mode poêlé avec des pommes de terre nouvelles. C'est à refaire. C'est aussi l'avantage du woofing, on mange bien, on découvre des recettes.
On a fait la plantation de différentes variétés de pommes de terre en plein champ, par exemple des charlottes ou des agatas. Et pour ça, on a pu expérimenter un outil, la planteuse, qui s'accroche derrière le tracteur. Deux personnes sont assises dessus, avec les caisses de pommes de terre germées à planter, et quand le tracteur avance, il creuse un sillon. Nous, on peut jeter une pomme de terre qui sera ensuite recouverte par l'outil.
C'était sympa, un peu comme un tour de manège. Ce qui nous a aussi marqué chez lui, c'est la beauté de son jardin. Sa maison et ses serres sont séparées par un espace cultivé avec des fleurs, des arbustes et quelques arbres. La végétation est très dense, ça donne un effet oasis de verdure qu'on a adoré. On espère pouvoir retourner le voir prochainement.
Voilà, vous savez tout ou presque sur notre mois d'avril. On vous retrouve en mai pour vous raconter la suite du périple. Retour chez Rémi, notre pépiniériste préféré, nouvelle semaine de cours à l'ESA, quelques jours de congé et une nouvelle semaine à la ferme Sapousse. Avant de vous quitter, voici nos recommandations du mois, spécial BD.
Je vous recommande une BD que m'ont prêté des amis qui s'appelle La vie secrète des arbres, d'après l'œuvre originale de Peter Volleben. C'est scénarisé par Fred Bernard et dessiné par Benjamin Flao. J'ai trouvé ça passionnant et très beau. La BD mélange des informations naturalistes sur les arbres et les animaux de la forêt, avec l'histoire et l'évolution de Peter dans son métier de forestier, en Allemagne, entre les années 80 et 2015. J'ai appris des choses et j'ai vraiment trouvé les dessins beaux, avec plusieurs styles graphiques mélangés.
Pour ma part, ce sera la BD « Il est où le patron ?». C'est une BD de Maud Benezit et du collectif « Les paysannes en polaire », dont j'ai entendu parler dans un podcast, qui s'appelle « Les couilles à la ferme ». Elle présentait ainsi la BD et leur collectif. Avec cette lecture, on rencontre le côté macho du monde agricole, où les paysannes doivent souvent répondre à cette question « Il est où le patron ?» et s'entraider pour garder le cap. Une BD qui parle de féminisme dans le monde agricole, j'ai adoré. À très bientôt !
Portez-vous bien. Portez-vous bien.